Vous écoutez
RMC. RMC, le vestiaire des GG.
Et que le vent soufflera, je repars.
C'est le moment où on partage sur nos expériences pour un petit peu comprendre ce qui se passe dans la tête des athlètes en activité, ou ceux qui ont déjà posé la raquette, le ballon, le vélo.
Mais
cette
nous aussi,
semaine,
on est encore en activité.
En activité de haut niveau, Sarah. Oh là là, tout de suite, la susceptibilité des
gueules, c'est dingue,
incroyable. Cette semaine, on va parler justement de ce qu'on a expliqué. Comment créer une cohésion d'équipe. Alors vous allez partir, Johan et Corentin, pour quelques jours ensemble dans un petit espace. Comment créer une cohésion d'équipe, Corentin? On y pense, ça aussi, faut bien s'entendre sur un bateau. Attention à ne pas dire de bêtises maintenant, parce qu'après vous êtes ensemble pendant un petit moment.
Hein. Ouais, mais c'est bien, ça fera des petites histoires à se raconter sur le bateau. Mais non, c'est au moment de s'engager, quand on a une proposition, par exemple, de partir avec Johan, moi je connais la personne, je sais comment il réagit, je le connais depuis 10-12 ans maintenant, quand on était en Figaro, quand on était plus jeune, donc je savais que ça allait bien marcher, ça marche bien pour l'instant, mais voilà, on a une belle transat devant nous, et puis on pourra vous dire à l'arrivée comment ça s'est passé, mais non, faut essayer de s'adapter en fait, hein. Faut essayer de s'adapter à l'autre, et puis des fois faire des concessions. Et...
C'est qui le patron, parce qu'il faut une hiérarchie, nous dans les vestiaires de basket, on a une hiérarchie, on sait qui est le patron, c'est qui le patron sur le bateau.
C'est Yo-Yo le boss, hein, ça c'est sûr. Donc moi j'apprends plein de choses à ses côtés, et puis j'essaie de lui apporter ma petite patte aussi, donc c'est lui le patron, mais oui, comme tu dis, c'est bien d'avoir une hiérarchie, et puis dans toutes les décisions stratégiques, météorologiques, au final on peut discuter. C'est lui qui
en fait, vous pouvez discuter, mais c'est lui qui décide, quoi.
C'est lui qui tranche.
Ouais, mais on est quand même plus intelligent à deux.
Oui, surtout quand c'est toi qui décides, c'est plus facile à dire.
Yoann, il a raison, il fait de la politique avant de partir. Il va pas dire je suis le grand patron.
Il s'embrouille juste avant.
Yoann, comment on choisit son coéquipier quand on sort d'un Vendée et qu'on part pour une saison en double? Est-ce qu'on le choisit sur le plan technique, c'est-à-dire le skipper, le navigant? Où on choisit aussi sur la relation humaine, quelle est la part de l'un par rapport à l'autre?
Presque 50-50 au final. Hein. Ouais. Alors, tu as deux trucs. Tu as un peu le marin dans ses qualités, dans ce qu'il a fait avant. Donc, nous, on sort de la solitaire du Figaro, donc on a un peu les mêmes formations. On est au même centre d'entraînement à Port-la-Forêt. Donc, on est dans le même moule. Donc, on sait que déjà dans la réflexion, tu vas dans les mêmes lignes. Il y a l'engagement, l'intensité, les résultats qu'il a pu avoir. Après, il y a le côté technique d'utilisation de ces bateaux-là. Et là, c'est plus délicat, parce que les bateaux, ils sont super compliqués, et c'est pas n'importe qui déjà peut monter à bord, et encore moins n'importe qui ne peut monter à bord et être percutant tout de suite.
C'est vraiment en quelques mois, en fait.
Ouais, c'est ça. Là, ça fait 4, 5 mois. Ouais. Et donc, ça, c'est compliqué. Donc, moi, quand j'ai commencé il y a 2 ans, 3 ans maintenant, j'ai fait appel à Yann Eliès, qui lui était rodé dans cette catégorie Emoca. Lui, il m'a appris, il m'a passé la main. Maintenant, je suis assez autonome, on va dire. Et donc, moi, j'avais cette maîtrise de la technicité, et j'avais pas de souci à avoir quelqu'un qui l'avait peut-être un peu moins, mais par contre qui avait ce côté engagement, sport, combat qu'a Corentin. Puis en plus d'être un mec sympathique, c'est vrai que ça fait 10-15 ans qu'on se croise sur à peu près tous les plans d'eau. En fait, c'est ça qui est assez spécial dans la voile, c'est que tu choisis un coéquipier pour tes épreuves en double qui en fait est un adversaire le reste du temps.
Ben oui, parce qu'en en plus, Corentin, tu vas garder le bateau derrière pour faire le Vendée Globe, où vous serez adversaire, parce que Yoann, tu seras sur une autre embarcation pour le prochain Vendée.
Ouais, exact, on construit un nouveau bateau.
Non, mais c'est-à-dire que là on parle de cohésion d'équipe, tu te dis pas faut quand même pas que je lui montre tout sur le bateau. Je vais pas lui montrer le booster là que je l'ai caché.
En attendant, on doit gagner des régates. On est quand même là pour ça, donc tu vois, non. En fait, du coup, tu peux pas cacher grand chose. Ouais. Enfin, sinon, c'est complètement nul.
Et en arrivant, tu le sabotes.
Après, je le coule.
Oh, Fort de France, blam. On est avec Yoann Richaud, mais Corentin Hérault-Tandel sur l'Imo Cap après Carcassonne. On est dans le vestiaire. Comment créer une cohésion d'équipe, Jérôme?
Pour compléter ce qu'a dit Fred, la cohésion d'équipe, et on a pu discuter avec Yoann, ce qui m'a beaucoup plu dans son état d'esprit, et c'est pour ça qu'on s'entend bien, c'est qu'il a l'esprit de compétition. C'est-à-dire que lui, il vient pas pour participer, il vient pour gagner. Et je crois que dans le choix de son binôme ou dans son team, t'as aussi besoin d'avoir le même état d'esprit, c'est-à-dire où on va tous ensemble,
commun,
et le cap commun, c'est la gagne, ou c'est apprendre, ou c'est grandir.
Attends, mais dans une équipe cycliste, ça se passe
comment? Dans une équipe cycliste comme
vous êtes plusieurs, plus, hein, vous
oui,
êtes 8, 9
et, dans, et, dans, et dans une équipe, quand tu fais une sélection parmi 25 coureurs, t'en prends 8 pour faire un Tour de France, c'est où on va tous ensemble, et il faut avoir absolument le même objectif commun.
Ouais, mais attends, là c'est pas la même chose, parce que dans le cycliste, t'en as qui se mettent au service de celui qui doit gagner.
Part,
c'est
là,
encore
ils vont se mettre au service l'un de l'autre pour aller vers faire la gagne.
Oui, mais ils vont être deux sur le podium.
Mais ils vont être deux, mais sauf qu'ils vont partager leurs connaissances pour aller gagner. Si tu n'as pas le même état d'esprit, t'en prends un qui veut apprendre et l'autre qui veut gagner, si t'es pas tous les deux dans le même état d'esprit sur le quai en disant on y va et on va leur éclater la tête, on veut gagner, tu gagnes pas. Enfin,
tu vois, en cyclisme, je pense que t'as tes 8 coureurs pour le Tour de France, mais en fait t'as tout ton team qui est derrière.
Bien sûr.
Et si tout ce team là il est pas dans la même lignée que toi,
exactement,
tu vas dans le mur, ça tu le sais. Et nous c'est pareil, nous on a 17 personnes derrière nous et c'est pareil, tout le monde est focus dans le même objectif. Et donc oui, nous on va être les deux sur le podium, mais en réalité c'est toute l'équipe qui est drivée dans le même sens. Et bien sûr il y en a 15 qui sont dans l'ombre.
Et la construction d'un futur projet comme tu as aussi avec le futur bateau, j'imagine qu'elle est déjà comme ça. C'est-à-dire que quand tu construis un projet, que tu repars pas à zéro mais avec un nouveau bateau, t'es obligé d'emmener avec toi des gens qui sont focus comme toi sur la réussite, sur la gagne, ouais, mais avec un objectif.
Il y a aussi le problème de l'ego. L'ego c'est hyper important parce que là, comme tu l'expliquais, t'es le numéro 2 entre guillemets. C'est pas toi qui va prendre les décisions, faut l'assumer aussi. Faut savoir où on en est dans sa carrière, faut savoir ce qu'on veut, parce qu'on parle d'objectifs, c'est hyper facile au départ.
Dans le basket, ça se passe comment? Dans le basket, vous avez des stats individuelles, c'est très important. Il y a quand même des capitaines qui prennent des décisions.
En fait, nous, il y a vraiment une hiérarchie. Nous, on appelle ça le go-to guy, le joueur qu'on va utiliser sur les derniers instants. On sait que c'est lui qui va décider. Il y a ensuite une sorte de capitaine qui, lui, va générer cet esprit collectif.
Chacun sait ce qu'il a à faire.
Mais chacun a un rôle, en fait, au basket. On a vraiment tous le même rôle et on doit avoir un ego aussi surdimensionné d'un côté, mais de l'autre côté, s'adapter aussi, parce que tout le monde ne sera pas la star de l'équipe, en fait.
Corentin, on disait il y a quelques instants peut-être sur la hiérarchie sur le bateau, mais vous savez aussi exactement ce que chacun doit faire, ou c'est assez flexible sur le bateau pour qu'on comprenne bien?
Non, pour comprendre, c'est que en général, quand on fait du double, on dit que c'est du faux solitaire. Donc pendant qu'il y en a un qui est sur le pont à essayer de faire marcher le plus vite possible le bateau, il y en a un autre qui dort. Donc il faut être hyper polyvalent et savoir un peu tout faire. Alors après,
ça veut dire quoi du coup? Vous êtes jamais vraiment ensemble, en fait? Presque.
En théorie, on pourrait ne faire que se croiser. Ouais. Alors ça veut dire que tu dors 12 heures par jour. Ce qui commence à faire beaucoup.
En fait, tu rentres, t'es reposé, quoi.
Ouais. Tout à fait. Mais après, c'est des fois c'est un petit peu plus freestyle, on va dire. Par exemple, là sur le tout début de course, on va prendre 35 nœuds avec des rafales à 45 nœuds, donc ce qui est du vent très très fort. Donc là, pour le coup, on risque de pas dormir du tout. Ou alors des toutes petites siestes, on sera à deux sur le pont pour essayer de sortir du vent fort le plus rapidement possible et d'être le plus devant possible aussi.
En fait, on s'adapte tout le temps. T'as un plan de base, ça on le connaît. Tu vois, tu veux dormir 2 heures, faire 2 heures de carte, reposer 2 heures, te croiser pendant les repas pour faire un peu de météo et tout ça, discuter la stratégie, voir ensemble.
Vous dites parfois on bouffe ensemble là.
On mange juste midi. On mange juste midi.
Les mecs s'envoient un message. On mange ensemble.
T'es où? Tu dors où? Tu fais bouillir l'eau là, on se les pattes.
C'est un peu ça. Non. Puis voilà. Du coup, on essaie de passer des moments conviviaux ensemble. Mais c'est vrai que le début est spécial parce que t'arrives à peine à dormir. Donc là, on va se cramer. On le sait pendant, je sais pas, 2, 3, 4 jours. C'est vraiment dense. Ça, c'est un exercice auquel on est vraiment rodé. Et derrière, on va avoir un moment où on va vouloir récupérer. Puis après, sur la fin, généralement, t'es plus dans la lisée, c'est plus cool, là, c'est un rythme posé, quoi.
Non, mais c'est vrai que ce qui est fascinant pour vous, les gars, c'est qu'il y a des moments de tension qu'il n'y a pas dans d'autres sports, hein, parce que vous êtes, livré à vous-même, j'ai pas envie de dire
pas de
ça, mais
c'est dans l'autre sport.
Non, mais c'est un peu ça quand même, ou si effectivement.
Attention à toi quand même.
Non, mais si les conditions sont extrêmes à un moment, attention parce qu'à côté de Fred, les conditions sont parfois extrêmes, il y a des décisions à prendre très rapidement. Enfin, donc, il faut qu'il y ait une symbiose, en fait. C'est une symbiose qui est entre vous.
Ouais, c'est une symbiose.
Toi tu montes là-haut, toi tu vas là, toi tu fais ça, tu regardes les cartes.
Ouais, là tu parles d'un moment de panique là carrément.
Ouais, mais ça existe. Ouais,
ça
existe pas dans les autres sports en fait.
Ça peut exister. Ouais. J'ai pas d'exemple en tête, mais oui. En fait, t'as une particularité.
Mais tu vois, par exemple, on a parlé tout à l'heure des. On vous le souhaite pas évidemment, mais on a parlé de ce qui s'est passé cette nuit avec des chavirages. Il faut prendre. On était avec Arwan Leroux qui nous a parlé des décisions à prendre. Vous êtes prêt à ça aussi, dans la cohésion en tout cas.
Ouais, généralement.
Ça fait partie des automatismes, sinon c'est plus naturel dans le moment.
C'est pour ça qu'il y a un leader aussi. C'est parce que t'as pas le temps de te concerter tout le temps. Il faut qu'il y en ait un qui puisse prendre des décisions à un moment, j'imagine.
Exact. Comme dans beaucoup de situations de crise, moment, t'as un leader et il faut le suivre. Et puis, que ça soit la bonne ou la mauvaise, mais au moins, il faut avancer. Quoi.
Exact.
Ouais. Mais nous, alors, du coup, on a une particularité. C'est qu'en fait, t'as de la réflexion temps long. Là, on veut aller tirer, un bord vers la Bretagne Nord, puis ensuite au large des Açores, le machin, le truc. Et en fait, de la réactivité, oh putain, il y a un nuage qui passe, le vent tourne, il faut réagir tout de suite, il faut virer de bord, etc. Et donc, tu es un peu dans deux temporalités permanentes, quoi.
Ce qui est important dans tout ça et dans toutes les disciplines, Et on revient toujours à la même chose et aux mêmes valeurs de base, c'est le choix de l'homme. Le choix des hommes ou le choix de l'homme. Avec qui je m'embarque dans cette histoire? Comment on va réagir? Et surtout, apprendre à...
Ton gars, c'était Sylvain Chavanel. S'il n'était pas là, t'étais pas bien.
Ouais, ça peut être ça. Ça peut être les gens avec qui j'ai travaillé. Tu sais que si ça se passe bien, tout va bien rouler. Est-ce que quand ça va être dans le dur, comment on va réagir l'autre? Parce que l'homme, quand ça va bien, tout va bien.
Mais toi, c'est
quand
même...
c'est dans le dur que dans le management, moi, il y a eu des moments de crise, quand j'étais manager que coureur d'ailleurs. Quelle décision on prend? Et là, tu vois les gens, les mecs qui se tirent, bon, bah, tu dis eux, c'est pas la peine.
Mais l'essence du vélo, c'est quand même un sport d'équipe, quand même, même si certains le sentent pas forcément. Alors, par exemple, dans le tennis, Sarah, on vous connaît surtout pour le côté individuel, les parcours en simple. Après, vous vous retrouvez parfois en équipe. C'est un autre sport.
Tu joues en équipe quand tu joues pour ton pays, en fait. Mais les motivations sont différentes. Et puis, tu as du coaching, en fait, que tu n'as pas le reste du temps. C'est là où il y a un vrai apport. C'est-à-dire que tu as quelqu'un à côté sur la chaise qui peut réajuster quand il y a le moment de panique. Alors, on ne parle pas du même type de panique que quand on fait de la voile. Mais quand il y a un moment de panique, tu as quelqu'un qui peut te faire redescendre. Et puis, tu as l'émulation du groupe. L'émulation, Johan disait que vous ne gagnez pas à 2, mais vous gagnez à donc 17 plus 2, c'est ça? À 19. Quand tu joues au tennis, tu ne gagnes plus tout seul. Et c'est là que ça te donne vraiment une source de motivation supplémentaire. Parce que tu les entends, ils sont là. Parce que tu n'as pas le reste du temps.
Après,
tu
as quand même derrière toi, Sarah, même quand tu joues au tennis, c'est un sport individuel. Tu as quand même derrière toi des gens qui travaillent dans ta prépa, dans ton suivi, dans ton psycho.
C'est toujours une équipe.
Dans ces cas-là, quand tu vas moins bien, si tu sens que le coach il regarde ailleurs pour aller coacher quelqu'un d'autre, que ton kiné n'a plus de temps pour toi, que ton prep mental, et bah, tu te dis, je me suis trompé dans les choix. Je pense qu'on est tous faits du même bois, c'est-à-dire qu'on a besoin, surtout quand ça va mal, de gens solides.
Non, mais quand ça va mal aussi, alors dans le sport on parle beaucoup de santé mentale actuellement aussi, il faut résister aussi dans la tête. Il y a un côté très psychologique, je pense aussi, quand on est un tandem, on est attentif à la psychologie de l'autre. Si ça va un peu moins bien, faut que j'en fasse un petit peu plus, je sais pas, Corentin.
Ouais, c'est sûr qu'il faut s'adapter en permanence et puis ouais, on peut se soutenir dans les coups de mou quand on voit que l'autre déraille un peu, ben on le remotive, etc. Donc voilà, mais ouais, c'est moi je dirais que le maître mot, c'est de savoir s'adapter à l'autre. Et puis je parlais de l'ego aussi, des fois il faut mettre un peu son ego de côté.
C'est difficile.
Ouais, bah après.
Parce que quand on fait un métier comme le vôtre, on a forcément de l'ego. Et me dites pas le contraire, oui, on a forcément de l'ego. Parce que je vois Jérôme Pinot, par exemple, il a un ego surdimensionné. Donc j'imagine que s'il faisait quelque chose d'aussi dangereux que vous, il en aurait encore plus.
Bien sûr.
J'imagine que ça doit être difficile. Est-ce que parfois tu te dis, je devrais être numéro 1? Ou est-ce que parfois tu te dis, après ce duo-là, je serai numéro 1 dans l'équipe que je veux montrer? C'est ça que tu dis?
Fred, c'est vraiment.
Ouais,
c'est par leadership.
Non, mais si, c'est vrai.
Non, mais c'est hyper important,
bien sûr, leadership. On sait qu'on veut arriver à ça. Et puis. Bah, ça va arriver bientôt après cette transat, mais pour l'instant on respecte et voilà, moi c'est leur projet entre guillemets. Alors j'ai eu la chance de l'intégrer et de découvrir ça, que c'était une équipe magnifique avec plein d'individualités très très fortes, mais pour l'instant voilà, je suis au service de cette équipe et plus que de Johan, voilà, je dirais que je suis au service de cette équipe.
Ouais, plus que de Johan, c'est
bien, ouais. cet égo
dont... on va voir un peu comment ça se passe.
Cet égo dont on parle beaucoup, et comme tu dis Fred, on a tous évidemment de l'ego quand on est sportif de haut niveau. Je crois qu'il y a presque un vrai débat là-dessus, c'est la gestion plus que de l'avoir. L'ego, on l'a tous dans la gestion. Après, c'est de savoir, quelqu'un qui a énormément d'ego, dans le moment où il sent qu'il perd l'autre, où il a besoin de son équipe, bah le gérer plus que de le mettre de côté. Tu le mets jamais de côté. Quand tu prends une décision de leader, c'est pas de mettre en avant ton ego, c'est d'assumer. Et quand tu fais une décision collective, tu mets pas de côté. Tu penses collectif, tu le gères, mais tu mets jamais ton ego de côté.
Oh là là, mais quel discours de manager. J'ai les frissons en écoutant Jérôme. Merci.
C'est le froid, ça, c'est le froid.
Johan Richaume, Corentin Auro, le tandem de l'Imoca Paprec Arkea. Bah, là, vous partez, il est 10h25, vous partez dans moins d'une heure, les gars. Donc, merci d'avoir été avec nous quand même. Alors que c'est des moments précieux pour partager ce moment. C'était hyper intéressant sur la cohésion d'équipe. J'espère que vous qui nous écoutez, maintenant, vous savez un petit peu mieux comment on fait corps ensemble. Merci. merci et, merci à vous. Et bonne route, les gars.
Non, on suit du bon vent.
Bon vent. Oh,
ils prennent pas la route. Hein.
Mais, on va voir.
Il n'est pas du tout le sport.
Pierre-Yves Lowe, ah, bah, lui, il arrive, il vient de découvrir des
mâts. Il y a des grands mâts.
Il a vu des bateaux ici. Je ne savais pas que les mâts, c'est pas comme dans les bateaux d'Astérix, là, où il y a un mec tout en haut qui dit oula.
Et il n'y a pas de drapeau à la tête de mort, c'est très bizarre.
Pierre-Yves Lowe, avec une embarcation, tu es avec Sam Davis et Violette d'Orange qui vont s'élancer également dans quelques instants.
Exactement, sur les pontons ici au Havre, à côté de ce beau bateau Initiative Cœur, Sam Davis, Violette d'Orange, un nouveau duo qui va s'élancer. Sam, bon, vous avez le sourire, on vous sent pas trop stressé avec Violette. Violette a fait un dernier câlin à son chien, voilà, tout ouais, se passe bien.
J'enlève les petites poils de chat.
Il y a quand même un petit peu de stress avancé. On a parlé des chavirages là, il y a quelques temps. Alors c'est les multicoques, c'est pas pareil, mais même pour vous, j'imagine vous allez être attentif.
On pensait à eux, ils ont passé une nuit difficile. Je pense que nous aussi on va passer une nuit difficile aussi la nuit qui vient, donc forcément un petit peu de stress. Faut prendre soin du bateau, mais on toutes les deux on revient d'un tour du monde Vendée Globe, et sur ce bateau Initiative Cœur, je pense qu'il a vu pire que ça l'hiver dernier, donc j'ai confiance. Mais oui, il faut rester concentré, et on sait que ça va être difficile les 36 heures à venir, mais aussi je suis trop contente d'être là, prêt à partir enfin.
Avec Sam Davis, Sam, tu pars avec Violette d'Orange. Alors c'est les plusieurs générations là qui se retrouvent sur un bateau. On parlait il y a quelques instants de la cohésion d'équipe avec Johan Richaume et Corentin Auro. Comment ça se passe entre vous là, entre l'expérimenté et la jeune pépite Violette qui arrive sur la course au large aussi?
Ah ouais, ça se passe super bien. Moi, je juge que Violette, elle a déjà fait plus qu'un tour du monde. Donc, on a toutes les deux expérience. Mais c'est sûr qu'on n'est pas du même génération. Et j'ai fait un peu plus de transat et un peu plus de tour du monde que toi, Violette. Mais c'est chouette de se retrouver ensemble, de pouvoir faire ce duo et puis permettre Violette aussi de faire ses premiers pas sur un bateau à foil. J'ai essayé de montrer comment ça marche, et on a beaucoup entraîné cette année, donc ça va être chouette de continuer cet apprentissage. Et moi aussi, il reste encore énormément de choses à apprendre, et Violette, elle apporte beaucoup au projet, donc c'est trop bien.
Bon, bah, écoutez, Violette, Pierre-Yves, peut-être, non, tu peux lui passer le micro dans
oui,
direct.
Hein, bonjour.
C'est ça. Ah, bah, tu nous entends, Violette.
En fait, je vous entends. En fait, elle a le casque de Pierre-Yves, mais il ne vous entend plus.
Ah, il ne vous entend plus, Pierre-Yves. C'est bien, comme ça, on peut dire des choses sur Pierre-Yves. On n'a rien dit de mal sur Violette avant qu'elle arrive. Violette, bah, du coup, bah, je vais te poser un petit peu la même question. T'es avec, t'es avec une légende, là, hein, avec Sam Davis, avec toi, une légende du course au large. De la course au large, c'est comment de partir à affronter l'Atlantique avec Sam?
C'est une chance. J'ai une chance incroyable d'avoir pu, à la suite de mon Vendée Globe, pouvoir intégrer un si beau projet, un projet que j'admire depuis que je suis toute petite. Et puis Sam, c'est vraiment, elle fait partie des femmes qui m'ont donné envie de faire de la voile. Donc c'est juste magique. J'apprends énormément de choses tout au long de cette année, et puis encore en mer, je vais apprendre encore plein de choses. Donc je suis très très heureuse, et j'ai surtout envie de tout donner, parce qu'on commence dans des conditions assez costauds, donc il va falloir être dedans dès le début.
Violette, on t'a beaucoup suivi, évidemment que t'es la Benjamine du Vendée Globe. Il y a une bonne partie du public qui a été vraiment à fond avec toi sur la dernière traversée autour du monde, notamment à travers tes images sur les réseaux. On va vous suivre pareil là. Vous êtes fait des petites sessions TikTok avec Sam avant de partir, ou comment ça se passe, Violette?
Non, c'est tout simplement, on va essayer de partager notre aventure quand on sera en mer, en envoyant des vidéos, des photos quand on peut, parce que c'est pas toujours facile quand c'est la tempête ou quand on est concentré sur la course. Mais voilà, on va faire ça simplement le plus authentique possible, et j'espère qu'on pourra partager notre aventure au public.
Sam, d'ailleurs, la course au large a un peu changé aussi depuis quelques années. Je me rappelle, il y a quelques temps, on avait seulement les vacations, on vous entendait au bout du monde. On n'entendait pas très bien, on entendait on passe le cap Horn comme ça. Maintenant, c'est vrai que c'est très équipé. Ça change aussi le rapport à la course au large, le fait qu'on est peut-être plus connecté à la terre aujourd'hui, on a plus de moyens.
Ah ben oui, on est plus connectés. C'est sûr que ça change les choses. On se sent un petit peu moins seul. On a oui les antennes satellites qui nous permettent d'envoyer des beaux vidéos maintenant où c'était un peu compliqué à les compresser, à trouver les solutions avant. Donc ça c'est top. Moi j'adore le partage. Je trouve qu'on a trop de la chance d'aller faire ça nu. Et si on peut essayer d'emmener un peu tout le monde avec nous, ceux qui n'ont pas la chance d'être là ou qui n'ont pas envie de se faire secouer comme nous, mais qui aiment bien suivre. C'est chouette de pouvoir partager tout ça. Et tant mieux pour le projet Initiative CAF, parce que nous, on a besoin de ce partage, parce qu'on compte sur tout le public pour le soutien, pour sauver les enfants. Nous, on défend la cause mécénat chirurgie cardiaque. Et nos partenaires, ils donnent tous 1 euro pour chaque nouveau follower sur les réseaux sociaux. Donc nous, on promet, on échange de faire beaucoup de partage, envoyer des vidéos et puis comme ça ça marche très très bien pour ce projet. On va essayer de sauver 20 enfants cette fois pour mécénat chirurgie cardiaque
pour une bonne cause, en plus de partir au large. Merci beaucoup Violette d'Orange et Sam Davis. Bah, partagez tout ça, on sera ravis de vous suivre, et évidemment pour Initiative Cœur donc, et votre IMOCA, c'est pour une bonne cause, donc on va suivre ça avec encore un peu plus d'intérêt. Merci à vous et merci à Pierre-Yves Leroux de vous avoir mis en direct, et bon vent comme on dit, effectivement, pour partir dans moins d'une heure maintenant. C'est fou ça, moi je trouve ça toujours complètement.
Ce qui est incroyable, c'est les voir défiler ici avec nous,
contracter complètement,
et qu'ils ont trois collègues qui ont fait la crêpe.
C'est très comment dire, c'est très différent, ça dépend. Moi hier j'étais aux côtés de ceux qui partaient pour les Ocean 50. Les réactions sont totalement différentes. Moi j'avais un skipper, il voulait pas que sa femme et ses enfants descendent sur le ponton.
Ça va comme dans la vraie vie, chacun a des comportements différents par rapport au problème.
Il y en a qui ont besoin effectivement de communiquer, et puis d'autres qui ont besoin de rentrer dans une bulle. Donc c'est les réactions de départ sont totalement différentes.
Ouais,
mais c'est quand même une forme de départ et de déchirement quoi qu'il arrive chez tout le monde, hein.